In 500 meters, go straight, and then go straight.
Entre les pages. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre rendez-vous incontournable du monde des livres en Anjou, monde toujours aussi foisonnant et toujours aussi riche. J'ai reçu beaucoup d'invités depuis cette saison, mais de mémoire, c'est, je crois, la première fois que je reçois un scénariste de BD. Et quel scénariste ? Luc Brunjvic. Son imagination semble inépuisable, surtout il nous propose des histoires qui ne peuvent être contenues dans les 48 pages traditionnelles d'une BD. Chez lui, c'est ample, ça déborde, au point que ses histoires ont besoin de plusieurs volumes. Si je prends par exemple Le pouvoir des innocents, cela représente pas moins de 15 volumes, 30 ans de travail, depuis la première idée. Mais c'est d'une autre série dont il va être question aujourd'hui. Une série en cours dont le 7e tome vient de paraître. Je veux parler des frères Rubinstein. Ce 7e volume porte le titre de « Pour Clara ». Bonjour Luc Brunjvic.
Bonjour Luc.
On se rapproche un peu du micro ? Voilà, on n'hésite pas, très près.
D'accord.
Très près. Voilà. Vous êtes scénariste de bande dessinée depuis longtemps.
Depuis trop longtemps, sans doute.
Non. Allons. Vous allez voir, c'est la question qui vient à votre actif. Un nombre impressionnant de séries, mais aussi de one-shot. Vous avez débuté dans la publicité et vous commencez fort dans la BD avec la série Le pouvoir des innocents. Première publication en 1992, à l'âge de 25 ans. Il y a donc 24 ans, un quart de siècle, qui compte pas moins de 15 volumes.
J'aurais dit 34 ans plutôt.
34 ans ?
Ouais, on peut aggraver mon cas, sans problème.
34 ans. Rapprochez-vous du micro, vraiment. Hein. Quand je vous ai contacté, vous m'avez dit être toujours inquiet du regard critique qu'on pouvait porter sur votre travail. Avec une telle expérience, vous n'êtes toujours pas blindé ?
Je pense que le fait de se sentir à l'abri des critiques, c'est la meilleure façon de s'y exposer. Moi, je veux garder cette espèce d'inquiétude sur la possibilité de rater un bouquin. Et j'espère que cette inquiétude est un bon signal d'alarme et qu'elle me permet justement d'être à la hauteur de ce que j'ambitionne, sinon pour moi, en tout cas pour l'histoire que je raconte.
Il y aurait de la superstition ?
Un petit peu. Un petit peu. Je peux vous en raconter des bonnes là, sur les superstitions.
Ce syndrome d'incertitude, d'aucun parlerait d'imposteur, bah, il se niche où
c'est
en fait
pas, Non, c'est pas un syndrome d'imposteur dans le sens où ça fait maintenant une bonne vingtaine d'années que je suis assez convaincu de ma place, mais je suis aussi convaincu du fait que si je ne travaille pas, je peux facilement tomber dans des facilités qui ne seraient pas du tout ce que je souhaiterais pour le livre que je suis en train d'écrire.
Mmh. Quand je vous ai contacté, c'était pour parler de l'album 1991, une adaptation d'un roman de Franck Tillier, rien moins que ça quand même. Hein. Et vous n'avez pas voulu.
C'est pas que j'ai pas voulu, c'est que la date me semblait davantage correspondre à la sortie des frères Rubinstein, qui en plus n'est pas là pour le coup, c'est une œuvre très très personnelle et ça me semblait plus intéressant de parler de sujets qui me sont plus proches, plus propres que de parler finalement des sujets de Franck Tillier, que j'aime beaucoup, mais qui restent les sujets de Franck Tillier.
Ah bon, moi dans mon oreille, il restait que vous n'aviez pas voulu, voilà.
Bon. Voilà, je suis l'homme qui sait dire non.
Eh ben justement, on est là pour parler des frères Rubinstein. Alors c'est une série, à mes yeux, c'est une série monstre. Elle embrasse une partie du XXe siècle, de l'année 1927 à l'année 1948.
Tout à fait.
En plus, ce scénario, c'est presque comme les Matryoshka. Il intègre aussi, en filigrane, l'autre série, La mémoire dans les poches, et l'histoire de votre père. Est-ce que je me trompe ?
Non, du tout. En fait, alors si on devait situer La mémoire dans les poches, La mémoire dans les poches, c'est une espèce de dialogue au-delà de la mort avec mon papa. Mon papa a été un enfant caché pendant la Seconde Guerre mondiale. Évidemment, il était juif. Hein. Je travaille sur les frères Rubinstein. Je pense que ça a mis la puce à l'oreille des gens. Et donc, il a été caché pendant toute la guerre. Et j'avais très, très peu d'informations sur ce qui s'était réellement passé. Comme beaucoup de juifs après la guerre, c'est plutôt un sujet qu'il fuyait. Et puis, comme c'était quelqu'un de très taiseux, on n'a pas beaucoup parlé. Et puis, il nous a quittés de façon un peu abrupte. Et on n'a pas eu l'occasion de creuser la question. Et je me suis dit, la meilleure façon, c'était finalement d'essayer de reconstituer par la fiction ce qui manquait dans mon histoire familiale, et ça donnait La mémoire dans les poches. Mmh. Où il y a des éléments de la vie de mon papa et des éléments que je réinterprète, que je réincarne de façon différente, et avec des propositions qui viennent remplir les vides. Et ce qu'il y a d'assez drôle, c'est que peu de temps après la fin de La mémoire dans les poches, j'ai rencontré, ou du moins la descendante des gens qui ont sauvé mon papa de la déportation, puisqu'en fait, il se promenait dans la ville avec sa maman. Il a été, on va dire, chopé par le callback par les voisins qui l'ont sauvé in extremis d'une rafle. Et donc, peu de temps après la sortie de La mémoire dans les poches, j'ai été contacté par la descendante de ces gens qui m'a, elle, apporté toutes les réponses à tous les vides qui manquaient.
Magnifique.
Ah, c'était incroyable.
C'est magnifique, ça. Alors, quand il dit qu'en filigrane, on retrouve un peu des... Il y a des éléments, enfin, il faut le lire, et puis, mais il y a des éléments. Mais alors là, les grosses ficelles, elles sont dans les frères Rubinstein, parce qu'il y a encore de l'histoire de famille. C'est les frères Rubinstein, ils sont deux, hein, c'est Salomon et Moïse. Comme vous et votre frère Yves,
oui.
Avec les mêmes caractéristiques psychologiques.
Oui, alors en plus, c'est nos deux prénoms hébreux. Moi,
oui.
Je suis Salomon et Moïse, c'est mon frère.
Oui, alors Moïse, il est timide et dans la retenue.
Oui.
Hein. Et lui, c'est Yves, hein, c'est ça ?
C'est ça.
Voilà. Et Salomon, il est dans l'intrépidité, risque tout et flambeur, prêt à tout, mais avec les meilleures intentions du monde. Et ça, c'est vous.
Et ça, c'est moi. Ouais. C'est-à-dire, j'arrive à mettre à peu près tout le monde dans de mauvaises situations, mais toujours avec de bonnes intentions.
Oui, il y a vraiment des bonnes intentions. Mais quelle mauvaise situation, hein ?
Oui, c'est ça.
cette projection de vous, dans cette histoire... Elle nous dit quoi de votre regard sur vous ? Parce que c'est quand même vous.
C'est mon regard sur moi.
Oui.
C'est une vraie bonne question.
Oui. Parce que
elle me dit que je me serais rêvé en Salomon, parce que Salomon est beaucoup plus flamboyant que moi. Je reste quand même quelqu'un d'assez réservé et je suis un artiste, mais j'aime bien pratiquer mon art dans mon coin. Je pense que mes personnages sont plus importants que moi-même, donc je suis toujours assez perturbé par cette idée que les artistes auraient des égos surdimensionnés, parce qu'en fait, à partir du moment où je me laisse m'envahir par mon égo, il n'y a plus de place pour mes personnages, et je ne peux plus écrire. Donc, de toute façon, je passe mon temps à essayer de me vider de moi-même pour replacer mes personnages au centre de mon travail.
Parce qu'effectivement, se rêver en Salomon, on en parlera parce qu'il y a quelques éléments importants dans ce septième tome. Effectivement, on comprend que se rêver en Salomon, ce qui fait que Salomon a ce parcours-là, donc un parcours flamboyant, risque tout. C'est pas par hasard, c'est que malgré tout, derrière, il y a quand même cette volonté de sauver son frère.
C'est ça.
Hein ?
C'est-à-dire, il est prêt, il est vraiment prêt à... En fait, il veut réaliser absolument... Parce que un peu comme mon papa nous a quittés dans des circonstances tragiques et à un moment qui n'était pas du tout... Enfin, on ne l'avait pas vu venir. Salomon et Moïse perdent leurs parents de façon extrêmement précipitée. Hein. Ils meurent dans l'incendie de leur échoppe. Et en fait, ils meurent à un moment où leur rêve suprême, c'est que Moïse, qui est un peu l'expression de tout le rêve de la raison pour laquelle ils ont quitté la Pologne pour venir s'installer en France, c'est quelqu'un qui intellectuellement est capable de devenir quelqu'un sur le sol français. Et Salomon, comme il a perdu ses parents et que ses parents réaliseront jamais leur rêve, finalement, il reste dans cette idée qu'il faut réaliser le rêve de ses parents. Et il met complètement en avant Moïse, quitte à se sacrifier d'ailleurs à un moment lui-même et à aller en prison. Alors, il faut avoir lu l'histoire.
Il n'y a pas de spoil, pourquoi, puisque c'est dans l'histoire.
Hein. Enfin, en tout cas, il se retrouve dans un bagne pour enfants pour permettre à son frère d'accéder à des études, parce qu'il y a besoin de pièces d'identité, ils sont sous une fausse identité, et donc c'est obligé pour que Moïse puisse s'inscrire dans ses hautes études, que Moïse retrouve sa véritable identité, ce qui révèle du coup celle de Salomon et le conduit en prison.
À la maîtresse, c'est ça ?
Oui, c'est ça.
Hein, la maîtresse qui n'est pas très loin
pas
d'ici.
Pas très loin, pas en très Touraine.
Oui, en Touraine, hein, et dans laquelle... ça me reviendra. Un célèbre auteur a passé quelques années. Pourtant, le scénario original imaginé par vous, au départ, c'était l'arnaque.
Oui,
le film
ça.
L'arnaque.
En fait,
alors on est en plein année 20 dans les États-Unis des gangsters, et puis on tombe en Europe dans l'antisémitisme. Là, il y a un truc là qui il y a quelque chose qui a brillé là.
C'est-à-dire qu'en fait le point de départ des frères Rubinstein, c'est la rencontre avec un dessinateur qui s'appelait Fred Ruyer, qui malheureusement nous a quittés là aussi dans des circonstances tragiques. Il voulait absolument qu'on fasse un projet ensemble, ce qui me ravissait parce que c'est quelqu'un qui avait énormément de talent et qui était absolument adorable. Et en fait, en discutant, on s'est rendu compte qu'on avait un amour commun pour nos frères. Lui, il avait un frère, j'avais un frère, et nos frères étaient nos meilleurs amis. Voilà. Et je lui dis, mais est-ce que ça t'intéresse qu'on prenne comme point de départ l'histoire de deux frères ? Il me dit oui, évidemment oui, avec enthousiasme. Je rentre à la maison et je tombe sur l'arnaque à la télévision. Et les deux commencent à fusionner l'un avec l'autre. Je commence à imaginer une histoire de deux frères qui se cachent dans les égouts de New York, ville que tu adores, j'ai cru comprendre.
Oui, exactement.
et qui ont des démêlés avec la mafia. Et en fait, au fur et à mesure, parce que ça, c'est un... Première idée qui remonte à 1997. Tu vois, ça ne rajeunit personne à cette table. Et donc, tout au fil des ans, l'histoire a mûri, s'est transformée. Ce que je ne voyais qu'aux États-Unis, je me suis dit, être juif... j'étais vraiment parti sur l'idée de deux frères juifs déjà à l'époque. Être juif, c'est international. Pourquoi raconter ça à New York alors qu'on peut raconter ça en France ? Et puis, j'imaginais la raison pour laquelle ces deux frères se retrouvent à New York. Ça démarrait dans une ville minière aux États-Unis. Donc, je me suis dit, en France aussi, on a des mines.
Oui.
On a le Nord. Installons nos frères dans le Nord. Imaginons qu'ils sont d'origine polonaise, que les parents soient venus chercher... Sinon fortune, en tout cas l'espoir que leurs enfants pourront accéder à de hautes études, puisque en Pologne il y avait des restrictions pour les juifs, ils pouvaient pas faire certains métiers, ils pouvaient pas accéder à certaines études. Enfin voilà, ils quittent la Pologne, ils viennent en France et ils espèrent que leurs deux fils vont devenir des hommes bien et des hommes riches.
Mmh.
Et Salomon, c'est un homme bien. Mais la richesse, ça l'intéresse moins que sa liberté, l'aventure, la gouaille. Et donc, il y a Moïse qui, lui, au contraire, se fait remarquer parce qu'en fait, ils habitent dans un coron. Et dans ce coron, il y a le propriétaire du coron qui a monté une petite académie parce qu'il se dit qu'il n'y a pas que... Il n'y a pas que les fils de ses contremaîtres qui peuvent contribuer à sa fortune. Il peut aussi y avoir quelques miracles parmi les gens qui vivent dans le coron. Et Moïse est à ce moment-là le petit miracle qui peut devenir justement un des contremaîtres, éventuellement beaucoup plus tard un des dirigeants de la mine. Et les choses ne se passent pas exactement comme ça. Il y a la remise des prix de fin d'année. Moïse échoue à obtenir le premier prix parce que si c'est Moïse qui l'a, c'est le fils du propriétaire de l'académie qui ne l'aura pas. Donc évidemment, on met en avant le jeune Lambertin. Et ça met Salomon complètement hors de lui. Et il décide de récupérer le prix de son frère. Et à partir de là, tout part en
coup. Tout part en vrille. Et d'ailleurs, Moïse n'échoue pas.
Il n'échoue pas.
Il y a une saloperie de tricherie. Soyons clairs, il y a une saloperie de tricherie.
Mais c'est bien ça qui met hors de lui Salomon.
Et on va dire qu'il met le feu aux poudres et qu'il met le feu tout court. C'est là où les parents de Moïse et Salomon vont disparaître dans un incendie. Faut se rappeler, 1927. Donc, on est dans une période en France, en Europe globalement, où l'antisémitisme, il est fier de lui. Hein. Enfin, il est présent, il existe, il a des journaux, il a des représentants, et tout va bien pour lui.
Tout à fait. En plus, je ne veux pas jeter l'opprobre sur nos amis d'origine polonaise, mais on est dans un quartier, on est dans un coron où il y a une grosse, grosse communauté polonaise, et ça met... Ça active le feu.
Ça active les comportements, effectivement, racistes. Dans Pour Clara, on est dans le volume, on est beaucoup plus tard, on est en 44-45, précisément en 44-45. C'est après la révolte du camp de Sobibor, dont Moïse a été l'un des instigateurs. Salomon est plutôt fanfaron, Moïse est d'une éthique impressionnante, il ne plaisante pas. Cette rigueur quasi monacale de Moïse, elle dit quoi ?
Elle dit quoi ? Alors déjà, elle dit beaucoup sur mon frère. Donc, il est d'une rigueur quasi monacale.
Elle dit quoi de Yves ? Alors, on va y aller.
elle dit que ça est... Alors déjà, mon frère, pour comprendre sa psychologie, il faut revenir à cette phrase qu'a eue une de ses maîtresses quand il avait 3 ans. Il avait dit à ma mère, votre fils a des manières de vieux garçon, à 3 ans. Ensuite, quand il avait 20 ans, il y a une de mes amies qui m'a dit, soit ton frère est comptable, soit il est prêtre. Bon, il est un peu des deux. L'expert comptable. Je pourrais jamais lui faire écouter l'émission. Mais c'est un type adorable avec un humour absolument insensé. C'est l'expert comptable le plus aimé de France, de ses clients, parce que justement, il les fait rire. Voilà. Et donc, en fait, j'ai essayé de conserver au plus près les différentes caractéristiques de nos deux personnalités. Parce que je pense toujours d'ailleurs qu'elles ont un côté à la fois très extrêmement opposé et extrêmement complémentaire.
Ouais. Elles sont complémentaires. On voit bien que Moïse, tout au long de cette épopée, Moïse veut s'émanciper aussi de ce frère envahissant, quand même.
Oui.
Un peu envahissant, c'est-à-dire qu'il fait tout pour lui, quoi. Enfin, c'est infernal. Mais on sent cette... Alors, les dernières pages de Pour Clara sont à pleurer, quoi. Enfin, c'est à pleurer. Mais on va faire une pause musicale.
C'est un jeu et j'ai perdu les règles. Cocu mes chanceux, c'est ce que disent les faibles. Le reflet du miroir anime ma mémoire, m'indique en noir et blanc que je traverse le temps. On me fait les yeux doux, approche à pas de loup. On me parle tout bas et pour la première fois j'ai perdu leur regard. J'y vois une autre histoire et mon monde en couleur a l'air de leur faire peur. Et qu'est-ce que t'as dit? J'ai pas compris où on s'est rencontrés. J'ai oublié cet homme aux cheveux blancs qui me parle souvent, a l'air de savoir le fin mot de l'histoire. Moi je perds la mémoire, je suis comme l'enfant, plus de notion du temps, qui veut tout de suite et maintenant. Et qu'est-ce que t'as dit? J'ai pas compris où on s'est rencontrés. J'ai oublié. Pour celui qui garde le nord, les souvenirs précieux, la suite d'accord, mais j'ai perdu mon mouchoir. Je trouve plus le tiroir, l'étoile du berger est prête à s'arrêter. Tous les jours une surprise qui déclenche la crise. Les objets disparaissent, je perds pied et j'agresse. C'est inconnu qui cause, qui rentre sans frapper. Mais ça y est, j'ai trouvé, c'est celui que j'ai aimé. Et qu'est-ce que t'as dit? J'ai pas compris où on s'est rencontré. J'ai oublié. Et si la vie est un jeu qu'il faut recommencer, notre vie a de vaut mieux en rire que pleurer. Emmène-moi en balade, je serai toujours ravie. Et je m'excuse d'avance si je te demande t'es qui. Et qu'est-ce que t'as dit? J'ai pas compris où on s'est rencontrés. J'ai oublié.
C'est le groupe La Mine de Léo. Et vous êtes bien sur Radio G. C'est Entre les Pages. Aujourd'hui, je rencontre Luc Brunjvic pour le septième volume de la série Les Frères Rubinstein. Au-delà de la métaphore, on peut rapprocher Salomon et Moïse de deux personnages historiques. Dans ce volume-là, hein, bien sûr. Hein, Robert Capa pour Salomon. Et Léo Feldendler, à l'origine de la révolte de Sobibor, pour Moïse. Il fallait aussi du mythe pour donner plus de souffle au scénario.
Du mythe, je ne sais pas. Je suis parti des faits, en fait, de ces comportements héroïques. Qui ont dépassé complètement les gens qui ont vécu ces événements, à savoir ceux effectivement qui, au milieu de l'horreur, se sont levés pour retrouver leur liberté, alors que c'était plus la crainte de la mort au bout du tunnel. Mais comme de toute façon il y avait la mort, autant prendre le risque de la révolte. Et puis pour Salomon, effectivement, il y a un moment c'est le moment justement où les choses se retournent, puisque d'une certaine façon, Moïse a toujours vécu dans l'ombre de Salomon. Là, c'est Salomon qui pense que son frère est mort, qui découvre ce qu'il a fait pendant plusieurs années sur les champs de bataille européens, qui découvre qu'en fait, il a pris une fausse identité, qui s'est infiltré dans l'armée allemande pour pouvoir filmer le conflit, en se faisant passer pour un caméraman du cinéma militaire allemand, puisqu'il y avait des caméramans qui suivaient toute l'épopée nazie.
De l'armée, oui.
Lui, il s'est fait passer pour un de ses caméramans. avec un faux document qui... Bon, enfin, là aussi, il faut lire l'histoire.
Oui, il faudrait lire l'histoire. Oui.
Et donc, en fait, Salomon est convaincu que son frère est mort en camp d'extermination. Et il veut, d'une certaine façon, lui rendre hommage en partant, lui aussi, sur les champs de bataille, filmer la fin de la guerre.
On y reviendra tout à l'heure, parce qu'il y a une anecdote qui est géniale, mais on y reviendra tout à l'heure. Le titre du volume, c'est « Pour Clara ». Mais Clara... qui est l'amoureuse de Moïse.
Oui. Je voulais lever une espèce d'ambiguïté parce que Clara, c'est un personnage, il se rend compte dans des circonstances assez terribles. Et on pourrait penser que leur amour est juste circonscrit finalement à Sobibor, que c'est le sentiment de leur fin proche qui les amène à tomber amoureux. Et en fait, on se rend compte que c'est un amour plus profond. Enfin, à travers ce volume et la première scène, on commence à comprendre que c'est un amour beaucoup, beaucoup plus profond que ça. Et que surtout, c'est un amour qui va hanter Moïse sans doute jusqu'à la fin de ses jours.
Oui. C'est pour ça que je parle d'amoureuse. On imagine que dans des situations hyper dramatiques, tout d'un coup, on essaye de profiter de moments. Non, ils sont vraiment amoureux. Et on voit naître cet amour. On voit Clara progressivement le regarder. Enfin, vraiment, on voit l'amour naître. Mais dans ce septième volume, elle a disparu. Elle est morte. Et là, à nouveau, je ne spoil pas, puisque l'histoire est déjà racontée. Donc, il n'y a aucun spoil là-dedans. Elle est quand même présente dans ce nouveau volume. Moi, j'aurais dit, puisqu'on parle... de la communauté juive, je dirais que c'est le D-book de Moïse. Cette présence justifie les actes radicaux de Moïse, parce que les actes radicaux, il va en poser quelques-uns.
Hein. Je dirais que ça va au-delà de simplement la relation qu'il a pu avoir avec Clara. C'est sûr que la perte de Clara l'a fait basculer dans autre chose. Un peu comme finalement la mort des parents de Salomon et Moïse fige Salomon dans leur rêve que Moïse devienne quelqu'un. La mort de Clara va figer Moïse dans l'idée qu'il faut, comme il n'a pas su la protéger, elle, continuer de protéger le peuple juif dans son entièreté, on va dire.
Donc, mais quand je parle de D-book, c'est parce que on la voit, Clara, dans le septième volume. On la voit régulièrement, qui est là, qui parle. Alors, c'est un fantôme. C'est un fantôme qui parle, mais qui est présent. Et on sent bien que Moïse est habité par ce fantôme-là. Ça développe chez lui une puissance, mais aussi une radicalité, quoi. Mmh. On a tué son amoureuse, quoi.
Tout à fait. Et je pense que c'est vraiment là qu'il réalise à quel point il tenait à elle et à quel point elle est fondatrice de tout ce qu'il est au moment où il va la perdre. Et finalement, le ferment de tout ce qu'il va être après l'avoir perdu. Et en fait, il l'a pas véritablement perdu. Et d'une certaine façon, à la fin, la toute dernière case révèle qu'il y a une seconde Clara dans l'histoire. Et tant que cette Clara sera auprès de lui, la première Clara sera en permanence à ses côtés.
Parce que cette Clara, c'est elle qui va le dépuceler. C'est la première fois qu'il fait l'amour. Ils font l'amour dans un camp. Et c'est elle qui va vers lui. Elle se déshabille, elle le déshabille, et ils font l'amour. Et c'est là qu'on comprend que c'est pas que c'est de l'amour, quoi. C'est-à-dire qu'elle dit on s'en fout. En fait, on s'en fout. On est vivant, on fait l'amour, quoi. Et c'est magnifique, ça.
Et surtout, Moïse, il a cette espèce de pudeur, parce que avec ce qu'ils vivent au quotidien, avec le manque de nourriture, de nutrition, il trouve que son corps est devenu atroce, et elle lui dit une phrase. Alors bon, effectivement, c'est moi qui l'ai écrit. Il n'en reste que pas moins que ça restera une des plus belles phrases que j'ai. Elle lui dit, ce soir, il n'y a personne plus beau que nous.
Ouais. Et je trouve ça, moi, c'est l'échange qu'ils ont là est fort, puissant. Ouais. On reviendra sur les dessins tout à l'heure. Hein. Alors, on parle de choses dramatiques. On parle du camp de Sobibor. On parle de l'antisémitisme. On parle de l'extermination. Il n'en reste pas moins qu'il y a quand même quelques notes d'humour. Une que j'ai vraiment appréciée, mais vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est Salomon. Donc lui, moi je l'ai rapproché de Robert Capa. Robert Capa a participé au débarquement. Il a été dans une barge. Mmh. Il reste les 11 Magnificent, c'était les 11 photos qu'il a prises du débarquement. 11 photos sur 139. Mais là, bon, c'est pas, vous lui faites pas faire tout à fait Robert Capa. Il est parachutiste. Il est parachutiste avec une caméra. Il doit filmer.
Et raconter. Mauvais endroits.
Raconter.
Bah, ils sont, comment dire, il y a la DCA allemande qui bombe, enfin, qui tire sur leur avion et du coup, ils doivent sauter avant l'endroit où ils sont prêts. Où il est prévu qu'il tombe. Et en fait, ils sont parachutés ben, là où ils ne devaient, pas tomber et ils ne savent pas où ils se trouvent. Et du coup, ben, ils passent le débarquement sans aucune image du débarquement.
Aucune image du débarquement.
Parce qu'ils ne savent pas où il est. Et le débarquement n'a pas lieu puisqu'ils ne sont pas au bon endroit.
Ça, j'ai trouvé ça génial parce qu'on... On voit tout, donc c'est une bande dessinée, on voit tous les dessins, mais on le voit appeler sa femme, et dire, mais j'ai pas d'image. Mais... Quels éléments vous avez pioché dans votre biographie personnelle ou dans votre histoire familiale par rapport à on a parlé donc de Salomon et Moïse. Est-ce qu'il y a dans cette partie de l'histoire de l'histoire de France et de voilà, est-ce qu'il y a des éléments qui apparaissent dans par exemple ce 7e volume et qui relèvent de votre biographie?
Pas vraiment, non.
Non,
moi, c'est vraiment plus dans la mémoire, dans les poches, qu'il y a des choses qui se rapprochent de mon histoire familiale. Là, on est vraiment sur une histoire fantasmée, comme je disais, autour de la relation que j'ai avec mon frère. Donc, en fait, j'ai essayé de trouver des éléments qui permettaient d'exprimer à la fois nos personnalités et puis le choc de ces personnalités, qu'est-ce que ça donne quand on se parle, quand on essaye de collaborer, quand on se comprend plus.
Alors, moi, ce qui me semble intéressant dans cette série, cette épopée, c'est que vous n'y faites pas d'anachronisme. C'est-à-dire que vous ne plaquez pas des pensées ou des concepts d'aujourd'hui qui n'existaient pas à l'époque. C'est un danger dont vous aviez conscience?
Oui. J'ai effectivement essayé de... Bon, après, moi, j'ai la chance aussi d'avoir des parents qui m'ont eu tard. Donc, en fait, moi, j'ai connu des gens qui ont connu la guerre. Donc, j'ai baigné dans une façon de penser, de s'exprimer, de... concevoir le monde qui remonte à avant-guerre. Voilà, donc je suis ce qu'on appelait à l'époque un fils de vieux. Oui. Aujourd'hui, il y en a plein, mais...
Aujourd'hui, c'est normal.
Aujourd'hui, c'est normal. À l'époque, c'était un peu étrange. Voilà. Effectivement, ça donne une façon d'envisager le monde. Alors, qui m'a longtemps mis en décalage par rapport à mes petits camarades qui avaient des parents qui étaient plus de... qui étaient d'une génération qui avait connu mai 68, la libération sexuelle, tout un tas de choses, le libéralisme, l'envie de ceci, le besoin de faire fortune, le clinquant. Nous, on était justement plus dans une pensée où il fallait être d'abord quelqu'un de bien, il ne fallait pas dépenser trop d'argent, il fallait penser à demain parce qu'on ne sait jamais... il fallait penser à demain parce qu'on ne savait jamais de quoi ça allait être fait. Il y avait toujours cette crainte que la guerre revienne. Donc, il fallait toujours mettre un petit peu d'argent de côté, même si on ne gagne pas beaucoup. On se sacrifie pour ses enfants. Enfin, voilà.
Mais c'est ça que moi, j'ai trouvé intéressant. Alors, un petit détail, mais pour moi, qui est important. Cette série, c'est parfaitement la même équipe depuis le début. vous au scénario, Étienne Leroux et Loïc Chevalier au dessin, Elvire Decocq à la couleur. Qui a composé cette équipe ?
Alors, comme je te le disais tout à l'heure, ça a commencé avec Fred Ruyer, mais alors Fred, à l'époque, il travaillait dans la communication. Il gagnait très très bien sa vie. On a commencé à travailler sur la bande dessinée, et puis quand les éditeurs, on a vu quelques éditeurs, on leur a expliqué ce qu'on était en train de faire, et puis les éditeurs ont commencé à lui expliquer ce qu'il allait gagner en faisant de la bande dessinée. Et il s'est enfui en courant. Les dessins animés avec le mec qui laisse une trace de poussière derrière. Bah, c'est ce qui s'est passé.
D'accord.
En fait, Frère Rubinstein, bah, voilà, se sont retrouvés orphelins déjà à l'époque. Et il a fallu de très très longues années parce que je l'annonçais comme un projet en 1000 pages, ce qui va pratiquement être, ça, on va être plutôt sur 750 pages, ce qui est déjà pas mal,
oui.
à la fin de la série. Et donc, ça faisait fuir tout le monde. Et puis, j'ai la chance d'être ami avec Étienne Leroux depuis une éternité. On s'est rencontrés en 1996. Et puis, on a fait la mémoire dans les poches.
Mmh.
Et je lui parlais sans cesse de ce projet, parce que je sentais qu'il était l'homme de la situation.
Mmh.
Et il me disait, mais 1000 pages, tu vois, non, peut-être. Ah. Intercalé entre le tome 2 et le tome 3 de La mémoire dans les poches, il a fait 14-18. Et en fait, il avait 4 ans pour réaliser 10 volumes d'une série sur 14-18, avec chaque volume qui devait sortir de ce qui correspondait à 14,
ah oui.
à 1914, devait sortir en 2014.
Oui.
Et il devait finir le 10e tome en 2018. Quoi.
Ah oui.
Donc, il a monté un studio avec Loïc Chevalier, déjà à l'époque. Et ça a tellement bien matché entre eux qu'ils se sont dit, il faut qu'on se retrouve. Alors là, pour le coup, ça y est, c'était parti. Il faut qu'on trouve des gros projets parce que c'est trop bien de travailler à deux. Et donc, quand ils ont terminé 14-18, il m'a demandé si les frères Rubinstein étaient toujours libres. Et je me suis empressé de lui dire oui. Et ça, c'est... Ça s'est très, très vite conclu parce que la maison d'édition Delcourt travaille avec Étienne depuis très très longtemps. Et ils savent qu'il a cette capacité justement à tomber des livres très très vite. Ce qui est un peu ce qui a chope aujourd'hui. On ne peut plus se permettre de passer un an et demi, deux ans à laisser traîner et à faire attendre les lecteurs. Donc, savoir qu'Étienne était aux commandes a rassuré immédiatement l'éditeur qui nous a donné le feu vert quasiment au bout de 3 mots qu'on avait prononcés.
Waouh ! Ouais, mais le prix de la BD, ça ouvre des portes quand même, hein ?
Oui. Oui, non, mais c'est vraiment Étienne qui a emporté la décision.
Bon.
Parce que, quelques mois plus tôt, j'avais proposé les frères Rubinstein avec un autre dessinateur et j'avais pas recueilli le même enthousiasme.
Le même enthousiasme.
Justement parce qu'il savait qu'il était un peu plus lent et on ne pouvait pas se permettre ça.
Eh bien, on va faire une deuxième pause musicale.
J'avoue, quand tu danses, je chavire tendrement. C'est vrai, je veux que ça dure longtemps. On ira dans ces lieux où on a su s'aimer. Même si chaque filet déchiré, je le vois dans tes yeux. Le temps est si précieux. Je le vois dans tes yeux. Prends mon cœur si tu veux. Dis-le-moi dans les yeux. Si tout ça n'est qu'un jeu. Dis-le-moi dans les yeux. Prends mon cœur si tu veux. J'avoue, dans tes yeux, qu'est-ce que c'est doux. C'est fou, je me mets à genoux. Quand toi, tu te cambres, moi je fonds. Danse avec moi jusqu'au dernier rayon.
je le vois dans tes yeux. Le temps est si précieux. Je le vois dans tes yeux. Prends mon cœur si tu veux. Dis-le-moi dans les yeux. Si tout ça n'est qu'un jeu. Dis-le-moi dans les yeux. Prends mon cœur si tu veux. Ah.
Là dans le studio, vous venez d'entendre la belle voix de Nathan Simonin qui a chanté Dans tes yeux. Et quelle chance vous avez, parce que ce n'est que sur Radio G. De retour justement dans le studio de Radio G, que vous pouvez aussi écouter grâce à une radio équipée du DAB+. Alors peut-être qu'il faut dire poste à galène équipée d'un DAB+ pour Luc Brunswick, mais bon, ça on verra. C'est le moment de reprendre ma conversation avec lui. Alors, un petit détail quand même, qui m'a fait plaisir, mais détail important, et j'aimerais avoir votre avis. Avec ce septième opus, c'est la première fois qu'Elvire de Kock est crédité sur la couverture. Qui est-ce qui a eu conscience de cette inégalité de traitement?
C'est elle qui nous a gentiment demandé si elle pouvait avoir son nom sur la couverture.
Bah.
Mais c'est... Non, mais c'est... C'est lamentable de ne pas l'avoir mis plus tôt. Oui. Après, c'est, le problème, c'est que il y a trop de noms sur la couverture, ça devient illisible, mais bon...
Là, ça le fait.
C'est clairement quelqu'un qui apporte quelque chose de très précieux à la série.
Oui.
Son nom a toute sa place sur la couverture.
Oui, oui. Bah, oui, moi, je... Bon, il faut toujours...
Je peux me permettre de dire que c'est quelqu'un d'adorable.
Oui.
Certainement la plus adorable personne qui existe au monde, après ma femme. Mais,
mais c'est... Non, mais c'est... Ça paraît... Enfin, c'est des détails. On peut se dire, oh bon... Non, c'est pas un détail. Parce que d'abord, elle fait un travail extraordinaire. Elle donne une cohérence. Autant Leroux et Chevalier, au niveau du graphisme, voilà, ils tiennent... Sur les 7 albums déjà, ils les tiennent complètement. Elle est à la couleur. Et donc, elle donne ce climat et cette couleur, elle est très cohérente du début à la fin. Enfin, moi, je l'ai trouvée très cohérente. Donc, voilà, je me posais pas la question. J'imaginais avoir déjà la réponse. Mais je pense que c'était important d'en parler. Puis, ça permet de parler d'elle. Hein. Vous êtes scénariste. On a une image réduite de ce rôle. Au cinéma, c'est le réalisateur qui est mis en valeur. Le scénariste semble souvent jouer un second rôle. Dans votre cas, c'est vous qui êtes à la manœuvre. Comment on... Bah oui, comment on trouve un dessinateur? On en a un peu parlé tout à l'heure, mais malgré tout, il y a eu d'autres séries. Comment on trouve quelqu'un avec qui on va savoir que ce qu'on a écrit... Ce qui va être dessiné va correspondre à ce qu'on a écrit.
Ça peut être très très long. Hein. Je donne toujours l'exemple d'une série là, que j'ai finie il y a 4-5 ans maintenant, qui s'appelle Urban, et que j'ai commencé à écrire. Alors, c'était vraiment les premières idées qui étaient posées, mais que j'ai commencé à écrire quand j'avais 16 ans. Et que j'ai commencé... Enfin, qui a été signé quand j'en avais 46. Donc, il m'a fallu 30 ans trouver le bon dessinateur. Et Dieu sait que j'en ai usé quelques-uns avant de trouver le bon. Mais oui, c'est extrêmement compliqué. Je dis souvent que un couple scénariste-dessinateur, c'est comme un couple homme-femme. C'est pas parce qu'on est un homme et une femme que ça va forcément marcher. Il faut vraiment prendre le temps de s'assurer que la personne avec qui on va travailler en cohérence avec l'ambition, les envies, la vision, parce que souvent il y a des idées politiques, sociales, des choses qu'il vaut mieux partager avec la personne avec qui on travaille. Hein. Il y a aussi des dessinateurs de droite. Hein.
Dit-il tout bas. Mais non, il faut le dire.
Peut nous entendre.
Ça existe. Il y en a de gauche, donc il y en a nécessairement de droite. De droite. Ils sont pas très bons, mais il y en a de droite quand même.
Non, il y en a qui sont très bons. Non, mais il faut vraiment être conscient qu'on est dans une communauté d'esprit avant d'être dans une communauté de travail. Et il faut travailler un peu sur cette communauté d'esprit avant de se lancer, avoir la garantie qu'on va passer un moment de communion plutôt qu'un moment l'un contre l'autre.
Alors, parce que c'est combien de temps ? C'est 7 volumes, c'est combien de temps d'années de travail, là ?
Alors, ce qu'il y a de bien avec Étienne et Loïc, c'est que...
Ça carbure.
Oui. Le premier tome est sorti en 2020, et on est en 2026, et il y a déjà 7 tomes.
Oui, mais c'est 6 ans. C'est 6 ans d'un travail d'équipe.
Oui, tout à fait.
Ça veut dire que malgré tout, vous êtes aussi tout le temps sollicité. Vous avez beau avoir écrit le scénario, vous êtes tout le temps sollicité.
Et j'espère bien que je vais être sollicité, parce que le but, ce n'est pas de livrer des pages. Hein. Le but, c'est de cheminer ensemble, quoi. Véritablement. D'avoir quelque chose à la fin, on a vraiment le sentiment qu'on peut le revendiquer. Quoi.
Alors, c'est un travail d'équipe. Vous êtes scénariste, donc vous avez écrit les dialogues. Les dialogues, il faut les caser dans la BD.
Oui.
J'imagine que les dessinateurs, ils doivent se crisper de temps en temps parce que en disant mais non, ça passe pas dans la case, non ?
Bah, j'espère que je calibre de mieux en mieux. Par exemple, en général, quand j'ai beaucoup de textes, j'imagine une grande case.
Oui.
Je place rarement un grand texte sur un gros plan d'un visage qui, justement, on va se retrouver avec juste le nez parce que la bulle va se retrouver devant les yeux. Donc, ouais, non, j'essaye de calibrer au maximum. Étienne me dit que ça fonctionne de mieux en mieux au fil des
albums. non, mais c'est toujours une question que moi je me pose parce que quand le dessinateur et le scénariste en même temps, voilà, il fait le travail, c'est pas un souci. Mais là, je me dis, il y a quand même du texte, il y a du sens. Et puis, l'image, elle doit servir à quelque chose.
Tout à fait.
Si elle sert à rien, c'est pas la peine de faire une BD, quoi. Il faut faire un roman.
C'est même pour ça que. Alors, on me demande pourquoi j'écris pas des romans.
Oui.
Déjà, dans un premier temps, effectivement, ce que tu expliquais, que c'est un travail d'équipe, et j'ai pas du tout envie de passer une vie solitaire, parce que j'ai déjà une vie solitaire, je travaille à la maison, je vois à part ma femme, mes enfants, et encore ils vont quitter la maison assez souvent.
Dit-il, avec son mouchoir
après, ils ont 25 et 22 ans, il serait peut-être temps.
Bon, on espère aussi qu'ils n'écoutent pas.
Donc voilà, c'est déjà, je fais de la bande dessinée parce que j'aime travailler en équipe et j'aime le travail en bande dessinée parce que justement, c'est un travail qui se pense à la... Moi, je dis souvent... Voilà, oui. Sa phrase préférée, c'est « il dit souvent ». Donc, je dis souvent. En fait, j'ai une histoire, j'ai donc un certain nombre d'informations. Alors quand je dis informations, c'est pas froid, hein. C'est peut être des informations très sensibles, très émouvantes et choses comme ça. Mais j'ai le texte, j'ai les dialogues, j'ai la façon dont j'imagine les cases et j'ai le jeu des personnages. Et je dois répartir ces informations entre tout ça, quoi. C'est pas juste Luc, il écrit les dialogues et tout doit passer par ces dialogues. C'est vraiment un ensemble qui doit amener des informations. Alors des informations qui, par exemple, si c'est un jeu d'acteur, ça va être une information moins directe, on va dire, plus qui va créer un ressenti chez le lecteur et qui finalement va venir s'incorporer dans toutes les autres informations plus directes que je lui aurais apportées, qui va aussi, je pense, orienter la façon dont il va lire ces informations plus directes. Et voilà, c'est pas une répartition des tâches, c'est réfléchir l'ensemble des choses qui nous permettent de raconter, d'utiliser au mieux ces éléments pour raconter en impliquant autant. Ben, ça peut être les dessinateurs, ça peut être les décors, ça peut être la coloriste qui va apporter un élément de narration. Enfin, Et puis, évidemment, les fameux dialogues.
Oui. On arrive à la fin de cette conversation. Nous sommes le 3 juin 2026. Nous parlons d'une série BD qui parle d'antisémitisme, qui parle aussi, qui conduit aussi vers la naissance de l'État d'Israël. Faudrait être un imbécile pour ne pas parler de l'actualité. Si la série devait se poursuivre jusqu'à aujourd'hui, les enfants et petits-enfants de Salomon et Moïse en seraient les protagonistes. Ça raconterait quoi ?
Ben ça raconterait, je pense que ça raconterait justement le dilemme qui existe aujourd'hui entre deux façons de regarder Israël. Je pense qu'il y a une partie du monde qui continue de voir Israël comme un miracle, quelque chose qu'il faut protéger, qui a du sens, un sens historique. C'est-à-dire, c'est quand même une nation qui s'est construite sur la destruction d'un peuple, d'une certaine façon, qui a permis sa résurrection. Et donc, moi j'ai cette vision-là, qu'on a un devoir de dignité par rapport au cadeau qu'on nous a fait et à ce que doit exprimer l'État d'Israël, de ce qu'il doit renvoyer, du comportement qu'il doit avoir avec des populations qu'il a privées de ses terres. Et puis d'un autre côté, on a des gens qui pensent que on est effectivement un petit peuple cerné par un monde qui serait quasiment intégralement antisémite et que la légitime défense est un droit et que cette légitime défense légitime justement toute forme d'action, quitte à créer une espèce de cercle vicieux d'antisémitisme, précisément parce qu'on n'a pas cette justice qui devrait être immanente par rapport au parcours du peuple israélite à travers le temps, à travers ce qu'il a vécu pendant la Seconde Guerre mondiale, et que malheureusement, comme souvent chez des enfants qui ont été victimes de violences, on est plutôt devenu des adultes qui reproduisent le malheur qu'on prétend avoir été les victimes.
Le 8e, oui. C'est pour quand ?
Très bientôt.
Ouais.
C'est pour janvier.
Janvier, super.
Janvier. Et justement, on se téléporte en Palestine.
Oui, on est obligé, on approche, donc on est obligé d'aller toujours pour ne pas faire d'anachronisme, vers cette résolution.
Tout à fait.
Puisque ça reste une résolution. Oui. Alors, peut-être insatisfaisante, la question n'est pas de parler comme ça, mais la question, historiquement, c'est comme ça que ça se présente.
Oui. Après, c'est aussi de le regarder avec les germes de la violence qui ont présidé à la naissance de l'État d'Israël. Faut pas... C'est-à-dire qu'on voit souvent la création de l'État d'Israël comme la suite logique de ce qui est arrivé en Europe. On oublie que l'État d'Israël a été créé par des Israéliens, des gens qui étaient installés en Israël depuis déjà 40, 50, 70 ans.
Oui, oui.
Et que eux, étonnamment, n'avaient pas du tout une vision beaucoup plus, viriliste de ce que doit être un juif, justement, parce qu'ils ont une espèce de mépris pour ces juifs faibles, pour eux en tout cas, qui sont les juifs d'Europe, qui ont accepté d'aller à la mort sans pour la plupart se révolter. Et c'est là où je vois énormément d'ambiguïté dans le discours d'Israël aujourd'hui, c'est qu'à la fois ils veulent être complètement dans ce discours viriliste on est fort, on peut faire tout ce qu'on veut, et en même temps absorber ouais, mais Onaouti était les victimes de la Shoah, alors qu'ils sont complètement dans, justement, dans la répulsion de ce que, non pas ce qu'ont subi les gens, mais du fait qu'ils n'ont pas réagi par rapport à ce qu'ils ont subi.
Merci Luc Brunschvicg, merci aussi pour cette dernière partie qu'on peut considérer comme délicate, mais ce serait une erreur intellectuelle, fondamentalement intellectuelle. Moi, je remercie d'être venu dans le studio pour nous parler de cette série que moi, j'adore. Je ne peux pas dire j'ai adoré, puisqu'elle n'est pas terminée et que j'ai découvert, je sais qu'il y a, trois volumes encore à venir, donc l'impatience est en moi, mais il faut que j'arrête, parce qu'il faut que je rende le micro.
C'est précisé qu'on sera dédicace
samedi. Ah oui, mais ça va être dit, ça D'accord. doit être dit quelque part là, parce qu'il ne faut pas faire mon travail non plus. Hein.
c'est un travail d'équipe, c'est un travail d'équipe.
C'est la fin de l'antépénultième opus de votre émission qui parle du monde des livres en Anjou. Il est l'heure que je rende les clés du studio. Je vois Pierre Benoît qui s'impatiente derrière la vitre. Je ne voudrais pas que les auditeurs soient privés de leur topette quotidienne. Dans l'agenda, quelques rendez-vous importants. D'abord, si vous êtes en manque de Luc Brunschvicg, vous pouvez le retrouver en chair et en os à la librairie Le Repère des Héros pour la présentation de ce 7e volume des Frères Rubinstein, ce samedi 6 juin à partir de 15h. Il sera d'ailleurs en compagnie de Étienne Leroux et de MOCDM. N'oubliez pas surtout de vous inscrire auprès de la librairie Le Repère des Héros, parce que il y a toujours influence. Hein. Et puis toujours ce week-end, des 6 et 7 juin, c'est le festival Club Crayon. Il se déroulera dans l'ancienne galerie In Arte Veritas, rue des Lys à Angers. Toujours en mode festival, c'est l'entre autres organisé par la librairie Myriagone pour ses 10 ans et c'est du 16 au 20 juin. Une cagnotte sur Litchi a été lancée, il est encore temps de contribuer, alors allez-y, soyez généreux, il faut que cette opération manifestation puisse avoir lieu. Et puis enfin, annoncer la sortie du numéro 50 de la revue Dissonance, une de nos grandes revues littéraires de l'Anjou. Le thème de ce numéro, c'est « Vivre ». Y a-t-il thème plus d'actualité que celui-ci ? La revue est toujours aussi classieuse, les images d'Éric Jonquière sont troublantes, revue à se procurer dans les meilleures librairies, par exemple à Ingrande. Il suffit d'aller à la Route du Sel. En plus, vous pourrez admirer la Loire, boire un verre sur la terrasse et vous achèterez une excellente revue de littérature. Au cours de l'émission, vous avez entendu la mine de Léo qui a chanté « J'ai oublié » et Nathan Simonin qui a chanté « Dans tes yeux ». Vous retrouverez toutes les informations et tous les liens relatifs à cette émission sur la page de Entre les Pages, sur le site de Radio G à la date de l'émission. Le prochain rendez-vous, ce sera le mercredi 10 juin à 17h. Et oui, dans une semaine, on s'offre le luxe de passer en hebdo. Pourquoi pas, hein, soyons fous. J'accueillerai deux invités, Salim Atala Chetaoui et Béatrice Machet, une quasi-consoeur, mais qui a plusieurs cordes à son arc, poésie, traduction, performance, enfin, bref, beaucoup de choses, elle a beaucoup de choses à dire, et j'imagine qu'on va avoir une rencontre passionnante, et je sais qu'elle aime beaucoup le travail de Salima Atala Chetaoui. Donc, belle émission en préfiguration pour la semaine prochaine. Dans quelques instants, ce sera le journal de 18h de RFI, et puis votre magazine Topette. Tu vois, Pierre-Benoît, j'ai tenu l'heure, je vous souhaite une excellente soirée, et maintenant...
In 500 meters, go straight, and then go straight.
Générique.